L'étranger est un peu comme le cheveu sur la soupe. Il ne fait pas partie de la soupe, mais il a été parachuté là par on ne sait quoi. Tout ce qui est différent ou non conformiste fait tache et l'étranger fait peur. Bien que les fidèles à Jésus-Christ vivent dans ce monde, ils s'y sentent étrangers parce que ces valeurs sont souvent contraires à celles de la parole de Dieu. Je continue à lire dans le chapitre 2 de la première épître de Pierre. Bien-aimés, vous êtes dans ce monde comme des étrangers, des voyageurs de passage. C'est pourquoi je vous le demande, retenez-vous de céder aux convoitises de la chair et aux mauvais désirs, car ils font la guerre à l'âme. Verset 11. Pierre appelle ses lecteurs bien-aimés parce qu'ils le sont par lui et de Dieu. À cause de l'amour qu'il a pour eux, il se sent tout à fait libre de les exhorter à vivre d'une manière digne de leur appel. À cause de leur ancienne nature, les croyants sont tentés par le mal comme n'importe qui. Cependant, comme Dieu les a régénérés et leur a donné une nouvelle disposition d'esprit, s'ils se soumettent à l'action du Saint-Esprit et choisissent d'obéir à l'enseignement des Écritures, ils auront la force nécessaire pour résister à l'attrait du péché et pour faire la volonté de Dieu. Pierre rappelle à ses lecteurs qu'ils ne font que passer sur cette terre et donc qu'ils ne font pas partie du système. L'apôtre Jean écrit: N'aimez pas le monde ni rien de ce qui fait partie de ce monde. En effet, tout ce qui fait partie du monde, les mauvais désirs qui animent l'homme, livré à lui-même, la soif de posséder ce qui attire les regards et l'orgueil qu'inspirent les biens matériels, tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Or, le monde passe avec tous ses attraits, mais celui qui accomplit la volonté de Dieu demeure éternellement. Les lecteurs sont des bien-aimés, mais aussi des étrangers. Ce mot veut littéralement dire à côté de la maison, et servait à désigner les résidents temporaires. La guerre que les convoitises de la chair et les mauvais désirs livrent à l'âme n'est pas une simple escarmouche, mais une campagne de longue haleine, et comme elle a lieu à l'intérieur de soi, on pourrait dire qu'il s'agit d'une guerre civile. Le croyant doit s'abstenir des convoitises non seulement pour sa propre santé spirituelle, mais aussi pour maintenir un témoignage efficace devant les incrédules. Je continue le texte. Ayez quotidiennement, au milieu des païens, une conduite exemplaire. Ainsi, dans les domaines même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils verront vos bonnes actions et loueront Dieu le jour où il interviendra dans leur vie. Verset 12. Pierre va expliquer à ses lecteurs comment se comporter différemment des incrédules. Au premier siècle, les non-croyants avaient collé l'étiquette de malfaiteurs sur le dos des chrétiens et les accusaient de cannibalisme, d'inceste, de mettre en péril le progrès économique et social de l'Empire et d'être athées parce qu'ils refusaient d'adorer César et les divinités païennes. Notre culture contemporaine et celle du premier siècle se rejoignent au moins sur un point. D'une façon générale, les non-croyants s'opposent à la foi chrétienne et ce n'est pas aujourd'hui ni demain que ça va changer. Il est donc important pour le fidèle à Jésus-Christ d'être irréprochable dans sa conduite, car alors ses ennemis, ne trouvant aucun endroit où planter leur croc, ne pourront que mordre leur propre langue médisante. C'est le meilleur moyen de faire taire la bouche mensongère des incroyants. Dans le sermon sur la montagne, Jésus a dit « Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Quand les incrédules voient la noblesse avec laquelle les croyants se conduisent, certains seront attirés par les valeurs du christianisme. Dieu interviendra dans leur vie et ils accepteront Jésus comme leur sauveur. Je continue le texte. Pour l'amour du Seigneur, soumettez-vous à toute institution humaine, au roi en tant que souverain, comme à ses gouverneurs chargés de punir les malfaiteurs, et d'approuver les gens honnêtes. Versets 13 et 14. En tant que citoyens des cieux, les croyants sont assujettis à Dieu, mais cela ne veut pas dire qu'ils peuvent mépriser les instances civiles et vivre en marge des lois du pays dans lequel ils sont. Tant que les lois ne vont pas à l'encontre des commandements divins, le croyant est tenu de les respecter car c'est honorer Dieu, puisque c'est lui qui est à l'origine des institutions terrestres. Pierre reconnaît donc la légitimité de ceux qui occupent une position d'autorité. Mais en insinuant que les dirigeants font partie d'une institution humaine, l'apôtre donne un coup de patte à la pratique romaine du culte de l'empereur. L'Empire romain était une image de décadence, gangrénée par l'homosexualité, l'infanticide, la corruption politique, le mépris des femmes, la débauche et la violence. Pourtant, aucun des apôtres n'a jamais suggéré qu'il était admissible de s'opposer aux autorités humaines. Jésus lui-même a dit « Rendez donc à César ce qui revient à César ». Et puis de toute façon, quelle que soit la forme de gouvernement, de la dictature à la démocratie, elle est trouée comme du fromage par le vice et la corruption. Tout au long de l'histoire, les pouvoirs en place ont été mis à mal par des insurrections, des révolutions, des subversions au nom d'un certain christianisme. Cela n'aurait jamais dû arriver car en aucun cas les Écritures approuvent de telles actions. Pensez-y. Si les États-Unis étaient restés dans la couronne britannique, il n'y aurait probablement pas eu de guerre de Crimée, de guerre mondiale, de guerre de Corée, et j'en oublie, parce que l'Angleterre aurait été bien trop puissante pour être attaquée. Le commandement biblique est clair. Soumettez-vous à toute institution humaine. En mentionnant le roi, Pierre reconnaît la royauté comme une façon de gouverner légitime. En effet, la démocratie n'est pas plus conforme à l'enseignement de la parole de Dieu que la monarchie ou le despotisme le plus vulgaire. Contrairement à ce qu'on aurait pu penser, Dieu n'a pas de préférence pour un régime politique particulier car de toute façon, toute autorité humaine vient de lui et c'est un instrument entre ses mains. Un proverbe dit « Le cœur du roi est comme un cours d'eau entre les mains de l'Éternel ». Il le dirige à son gré. Les Écritures reconnaissent l'existence de dictateurs tyranniques, mais réservent à Dieu seul le droit de les juger. En dépit du mal ambiant, les croyants sont appelés à faire confiance à Dieu et à croire qu'il règne au-dessus des despotes. En fait, il est dans les coulisses et c'est lui qui tire les ficelles. Jésus a vécu sous la botte de Rome, mais il n'a jamais contesté son autorité ou organisé une action contre l'Empire. Il ne s'est pas impliqué dans des réformes politiques ou sociales, mais ne s'est occupé que des affaires du royaume. Quant à l'apôtre Paul, son combat n'était que pour gagner des âmes. Pierre mentionne aussi que le rôle de l'autorité est de punir les malfaiteurs et d'approuver les gens honnêtes. Quand Jésus a dit à Pierre « Tous ceux qui se serviront de l'épée mourront par l'épée », il attribuait à Rome le droit d'utiliser la force contre ceux qui feraient usage de violence pour leur propre compte. Le gouvernement est le seul à détenir le droit de porter l'épée pour punir ceux qui enfreignent la loi. Je continue le texte. « Car voici ce que Dieu veut. » C'est qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence toutes les calomnies portées contre vous par les hommes insensés, ignorants. Verset 15. Le mot pour ignorant n'indique pas un simple manque de connaissance, mais un refus délibéré d'accepter la vérité. Pierre devait aimer jongler avec les lettres parce que c'est la deuxième fois qu'il le fait. Ici, les trois mots « homme »,« insensé », »,« ignorant » commence par « alpha » en grec. Afin de ne pas donner prise aux critiques, les croyants doivent faire ce qui est bien et se conformer à l'ordre social pour autant qu'ils ne s'opposent pas à la volonté de Dieu. c'est-à-dire à l'enseignement des Écritures. Ce passage tend à prouver qu'aucune persécution d'envergure n'avait encore été déclenchée par Rome contre les chrétiens et que l'État jouait toujours son rôle qui est de se faire craindre en réprimant le mal, en punissant les malfaiteurs et en protégeant les honnêtes gens. Je continue. En pratiquant le bien, vous agirez en homme libre, sans faire pour autant de votre liberté un voile pour couvrir une mauvaise conduite, car vous êtes des serviteurs de Dieu. Verset 16. Beaucoup de fonctionnaires étrangers qui bénéficient de l'immunité diplomatique profitent de ce voile pour allègrement violer les lois du pays d'accueil où ils vivent, y compris en participant à des crimes de sang. Cet abus de pouvoir n'est jamais qu'une magouille parmi d'autres et fait partie des fausses valeurs de ce monde. Le croyant ne doit jamais se conduire ainsi. Il a été affranchi des liens qui l'obligeaient à servir le péché et il est devenu esclave de la justice. Il est désormais libre, non de mal faire, mais d'agir en conformité avec son statut diplomatique de serviteur de Dieu. Le fait qu'il ne soit qu'un hôte de passage ne lui donne pas le droit d'enfreindre ou de s'opposer aux lois de sa terre d'accueil ou de refuser de se soumettre aux autorités. Je continue. Témoignez à tout homme le respect auquel il a droit. Aimez vos frères en la foi. Révérez Dieu, respectez le roi. Verset 17. Pierre résume les devoirs du citoyen chrétien. Premièrement, il doit respecter chaque être humain parce que ceux-ci ont été créés à l'image de Dieu. Même les esclaves, qui sous l'Empire romain étaient considérés comme du bétail, ont droit au respect. Il n'existe pas de raison valable pour exploiter son prochain, une pratique pourtant encore très répandue. Ensuite, le devoir du croyant est d'aimer ses frères et sœurs, les membres de la famille de Dieu. Troisièmement, il lui faut révérer Dieu, car il est le Seigneur du ciel et de la terre. Cette crainte respectueuse se manifeste par l'obéissance aux directives de sa parole. Enfin, le croyant doit honorer le roi, même si c'est un despote de première catégorie du genre Néron. En effet, il faut garder à l'esprit que nul ne prend le pouvoir sans l'aval du maître de l'univers. Je continue le texte. Serviteurs, soumettez-vous à votre maître avec tout le respect qui lui est dû, non seulement s'il est bon et bienveillant, mais aussi s'il est dur. Verset 18. Le mot pour serviteur signifie domestique. Au premier siècle, ceux-ci, avec les esclaves, constituaient un gros pourcentage des membres des églises. Certains maîtres étaient doux, équitables, généreux, aimables. Ils prenaient leurs serviteurs en affection et les traitaient comme des membres de leur famille. Mais dans leur majorité, les serviteurs subissaient des sévices de tous ordres et n'avaient aucun recours légal. Le philosophe grec Aristote écrit « Un esclave est un outil vivant, alors qu'un outil est un esclave inanimé. » Et dans un traité sur l'agriculture, on lit « La seule différence entre l'esclave, la bête ou la carriole est que le premier peut parler. » Pourtant, et malgré leur situation extrêmement difficile, Pierre ordonne aux serviteurs chrétiens de se soumettre sans amertume à leur maître, même quand ils sont durs. Ce mot signifie « tordu », pervers et a donné scoliose en français. C'est tout dire. Quand on considère de près la société occidentale, on dirait que sa seule obligation morale est d'offrir les mêmes droits à tous les individus. On ne parle pas de sacrifice ou de privilège, mais seulement de droits. Droit au travail, à la retraite, à rien faire, droits ethniques, droits des immigrés, des sans-papiers, des homosexuels, et j'en passe. Et lorsque les gens n'obtiennent pas ce qu'ils considèrent leur dû, ils protestent haut et fort, ils manifestent, font la grève, boycottent, se révoltent, et cassent même leur outil de travail. La fausse croyance qui sous-tend cette vision du monde est que nous sommes tous égaux et donc nous avons tous les mêmes droits. Mais cette idée est étrangère à l'enseignement des Écritures. Je continue le texte. En effet, c'est un privilège que de supporter des souffrances imméritées par motif de conscience envers Dieu. Quelle gloire y a-t-il en effet à endurer un châtiment pour avoir commis une faute? Mais si vous endurez la souffrance tout en ayant fait le bien, c'est là un privilège devant Dieu. Versets 19 et 20. Voilà un concept révolutionnaire. Certains esclaves subissaient des traitements inhumains et c'était le cas des croyants qui, à cause de leur foi, refusaient certaines demandes de leur maître. Je laisse le soin à votre imagination de penser à des exemples. Jésus a dit « Heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront et vous persécuteront, lorsqu'ils répandront toutes sortes de calomnies sur votre compte à cause de moi. » Oui, réjouissez-vous alors et soyez heureux, car une magnifique récompense vous attend dans les cieux, car vous serez ainsi comme les prophètes d'autrefois. Eux aussi ont été persécutés avant vous de la même manière. » Fin de citation. Mis à part ces paroles du Seigneur, ce qui peut consoler et encourager un croyant à subir patiemment des souffrances injustes est d'une part la prise de conscience de la présence de Dieu à ses côtés et d'autre part son espérance céleste. Dieu, en effet, ne nous épargne pas les épreuves de la vie et elles peuvent être rudes. Par contre, il promet que sa grâce sera suffisante pour y faire face. Un théologien de renom a dit « Lorsque nous constatons la défaite apparente du bien et le triomphe de la force et du mal, nous pourrions penser que Satan prend l'avantage. Mais si nous portons nos regards en haut et non alentour, alors, bien visible au regard de la foi, se dresse un trône. » Voilà donc le motif de notre confiance. Dieu est sur le trône. Pierre dit aussi que je n'ai aucun mérite à être magnanime face au châtiment s'il est la conséquence de mes propres fautes ou de ma stupidité. Je pourrais vous en dire long et donner pas mal d'exemples personnels, mais vous comprendrez que j'ai pas trop envie. Je continue le texte. C'est à cela que Dieu vous a appelé. Car le Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple pour que vous suiviez ses traces. Verset 21. On pourrait penser que Pierre pousse un peu quand il affirme que l'appel des croyants est de souffrir en faisant ce qui est droit et juste devant Dieu, mais il n'est pas le seul. L'apôtre Paul écrit « Oui, tous ceux qui veulent vivre dans le Christ avec piété seront persécutés. » Jésus nous a laissé un exemple. Ce mot décrit l'écriture ou le dessin qu'un élève reproduit. Jésus est un exemple par son comportement face aux souffrances injustes et par la façon dont il les a vécues. Jésus est le modèle à imiter. Par son exemple, il guide les croyants qui marchent sur ses traces. Je continue le texte. Jésus n'a commis aucun péché. Ses lèvres n'ont jamais prononcé de mensonge. Injurié, il ne ripostait pas par l'injure. Quand on le faisait souffrir, il ne formulait aucune menace, mais remettait sa cause entre les mains du juste juge. Versets 22 et 23. Pierre cite une prophétie de l'Ancien Testament. Jésus fut crucifié comme un vulgaire criminel au mépris de toute justice, alors qu'il était tout à fait innocent et sans péché, et pourtant il n'a rien dit. Son silence face aux accusations et à la souffrance montre sa pleine confiance en Dieu qui prononcera le verdict final et qui lui rendra justice. En tant que fils de Dieu, Jésus aurait pu d'un seul mot ou même d'une seule pensée projeter ses bourreaux dans l'enfer éternel, mais au lieu de ça, il a choisi d'accepter de souffrir et a même demandé au Père de pardonner à ses tortionnaires. En acceptant de porter toute la peine du péché, Jésus reconnaît que la sentence divine est juste, mais il savait aussi que Dieu le déclarerait juste, le ressusciterait et le récompenserait pour son sacrifice en lui octroyant le droit de sauver tous les pécheurs qui viendraient à lui. Je continue le texte. Jésus a pris nos péchés sur lui et les a portés dans son corps sur la croix afin que, cessant d'exister pour le péché, nous menions une vie juste. Oui, c'est par ses blessures que vous avez été guéris une fois pour toutes. Verset 24. Pierre cite à nouveau une prophétie. Jésus a subi le châtiment de tous les péchés de tous les hommes qui lui font confiance. Il a pleinement satisfait la justice divine, ce qui laisse libre cours au pardon de Dieu envers ceux qui croient. Ils sont comme guéris du péché puisqu'ils n'en mourront pas. La facture des péchés étant réglée, le croyant occupe désormais la position de juste. Je finis le chapitre 2. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais à présent vous avez fait demi-tour vers le berger qui veille sur vous. Verset 25. Pierre cite à nouveau une prophétie. Le mot pour faire demi-tour porte en lui l'idée de repentance, de tourner le dos au péché et donc de refaire sa vie avec Jésus. Si vous n'avez pas accepté la mort du Christ à votre place, vous êtes toujours un pécheur perdu et condamné assis sur le banc des accusés. S'il n'a pas porté votre châtiment, celui-ci, tel l'épée légendaire de Damoclès, reste suspendu au-dessus de votre tête.